Voilà, frères et sœurs, j'ai accepté pour ma première prédication parmi vous de relever le défi de poursuivre dans l'évangile de Luc. Et le texte qui m'incombe ce matin, c'est Luc 5, versets 27 à 39, que je vous propose de lire. Luc 5, 27 à 39. Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager, nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi laissa tout, se leva et le suivit. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les piégés et les pécheurs ? » Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole, « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Dans ces quelques versets, il est question d'appel. Il est question de ce que j'ai appelé de provocation et de parabole. Et cette répartition m'a donné la trame pour le message de ce matin que j'ai intitulé « Les trois tableaux ». Mais avant cela, quelques mots concernant le texte, ou plutôt le contexte. Jésus se trouvait à Capernaum, ville de la Galilée au bord du lac de Génézareth, ou la mer de Tibériade. Et là, il enseignait dans les synagogues, ou dans la synagogue. Et de là aussi, il rayonnait en fait dans toute la Galilée, et il faisait beaucoup de miracles, il faisait beaucoup de guérisons, il chassait beaucoup de démons, il prêchait aussi dans différentes synagogues de la région. Et alors, ces guérisons, ces prédications ont déclenché chez les Galiléens des sentiments contrastés. Les uns le louaient, l'admiraient, souhaitant qu'il reste parmi eux, tandis que d'autres le condamnaient et voulaient le faire mourir, jugeant ses pratiques contre les traditions humaines. Et là, je me réfère au message de Philippe il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines. Donc certains voulaient le faire mourir, et d'autres voulaient le garder chez eux, parce qu'il était intéressant. Et c'est un petit peu le contexte dans lequel se situe ce matin notre texte. Alors, le premier tableau. Jésus sort de la maison où il avait guéri un paralytique, ou peut-être il sort de la ville pour se rendre au bord du lac. Et alors, sur son chemin, il voit Lévi, ou Matthieu, comme cela se trouve dans l'évangile du même nom. Alors on peut se poser la question, est-ce que Jésus n'avait jamais vu Lévi à cet endroit ? Le texte ne le dit pas, on ne le sait pas, mais peut-être qu'il l'avait déjà vu. Mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant, précisément, que Jésus appelle Lévi. Et chose remarquable, vous l'aurez certainement remarqué, dès que Jésus appelle Lévi, Lévi suit Jésus, se lève abandonne tout, lâche tout. C'est impressionnant. Quelle spontanéité, quelle obéissance de ce Matthieu ou de ce Lévi. Lévi était un péager, le texte nous le rappelle. Donc un homme qui était au service des Romains et qui percevait les impôts sur les marchandises en transit. Et peut-être trois remarques par rapport au péager dans le contexte de ce récit. Il faut savoir que les péagers étaient haïs, détestés, méprisés par les Juifs. Pourquoi ? Parce qu'ils les considéraient comme des traîtres. D'autre part, les péagers gagnaient très très bien leur vie, parfois aussi malhonnêtement, c'est-à-dire ils encaissaient des impôts plus que ce qu'ils auraient dû et la différence, ça passait dans leur poche. Lévi était peut-être un homme honnête, on ne le sait pas. Mais cela suppose en tout cas que Lévi était très certainement l'apôtre le plus riche des douze, parce qu'il avait des sous, et on le voit dans la suite de l'histoire. Et une troisième remarque, c'est qu'un péager qui quittait sa place de travail ne pouvait plus, comme par exemple un pêcheur, être réengagé. Une fois la décision prise, c'était irrévocable. Il ne pouvait pas retourner dans son poste qu'il venait d'abandonner. Lévi a donc spontanément quitté son boulot et quitter un bon revenu du jour au lendemain, à l'instant. C'est impressionnant. Et je dirais que la suite du récit est interpellant, car il y a dans la vie de Lévi un changement radical, un changement impressionnant. Et celui qui percevait de l'argent des autres est maintenant prêt à donner pour les autres. Est-ce qu'il avait compris ce que le Seigneur a dit un jour? Peut-être qu'il l'a entendu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que cet appel de Jésus l'a bousculé dans sa conception de l'utilisation de l'argent pour qu'il soit maintenant prêt à donner? Et ce récit, juste une parenthèse, ce récit fait écho à l'histoire de Zachée, vous vous souvenez? Mais avec une grande différence, à mon avis. Parce que dans l'histoire de Zachée, il est question de restituer de l'argent. C'est ce que Zachée a dit. Alors cela a suscité la question en moi, est-ce que Lévi était un péager honnête? Peut-être. Le texte ne le dit pas. Toujours est-il qu'il organise spontanément un grand festin pour Jésus, il est bien dit, Lévi, lui, fit donc à Jésus un grand festin. Dans un premier temps, le festin était organisé pour celui qui venait de l'appeler, pour celui qui lui a dit « Suis-moi ». C'était lui l'hôte d'honneur, c'était lui le principal invité. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Toujours est-il qu'il organise spontanément ce festin, mais il invite aussi ses collègues de travail, il invite toutes sortes de personnes. Et si on lit le même texte dans Matthieu, il est fait allusion que c'était des pêcheurs. Donc il a invité des péagers, ses collègues, et des pêcheurs. Et apparemment aussi des disciples. Alors je ne sais pas son but, mais je peux m'imaginer que le but de Lévi était, en invitant tous ces gens, pour que ces gens puissent entendre celui qui l'avait appelé, puisse peut-être voir certains miracles. Apparemment, il y avait foule, parce qu'il est dit qu'il y avait une foule nombreuse. Il va avoir une grande maison quand même. Donc aussi signe d'être aisé. Son but était certainement à ce niveau-là. Mais voilà qu'apparaissent les pharisiens et leurs scribes. Étaient-ils aussi invités? Le texte ne le dit pas non plus. Pourtant, eh bien, ils sont là comme dans bien d'autres situations où Jésus était en train de prêcher ou de faire des miracles. Ils étaient là. Apparemment, il était un petit peu suivi partout où il allait. Et c'est eux qui vont bouleverser le déroulement de la fête. Et c'est intéressant de voir à partir de là, il n'est plus question de Lévi. Pourtant, c'est lui qui avait été appelé. Il disparaît complètement. Il est placé en second rang. Il est dans l'ombre maintenant, Lévi. Et c'est finalement les pharisiens qui se mettent en avant. Alors, ce premier tableau suscite des questions. Suis-je aussi spontané que Lévi quand le Seigneur m'appelle? Aïe, là ça change. Je vous ai dit avant, tout à l'heure, que c'est à 20 ans que j'ai eu l'impression, je vais le dire comme ça, d'avoir un appel. Et c'est 15 ans après que j'ai vraiment réagi. J'ai mis 15 ans quand même. Lévi, c'était juste un peu plus rapide. Il a réagi au quart de tour, lui. Et moi, ça m'impressionne de voir avec quelle spontanéité l'obéissance au maître a agi dans son cœur. Une deuxième question, les gens non convertis peuvent-ils observer ma façon d'être, de vivre, de parler, qui devrait être différente des leurs? Est-ce qu'ils peuvent observer ça dans mon quotidien, là où je bosse, à la maison, peu importe? Et une autre question qui m'interpelle, ai-je à cœur les non-convertis? Est-ce que je prie pour des gens qui n'ont pas Christ dans leur cœur? Lévi, tout de suite, il a invité des péagers, ses collègues de boulot, il a invité des pêcheurs, pour qu'ils entendent le message de l'Évangile. Le deuxième tableau, les provocations. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les pharisiens et les scribes entrent maintenant en scène. Et comme de coutume, ils ont une attitude provocatrice. C'est rare qu'on voit les pharisiens, les scribes et autres être assistés à une rencontre d'une façon très, très calme, très sereine. Toujours à nouveau, ils venaient avec leurs piques, leurs questions. Ils remettent les choses en question. Et si nous considérons ce qui se passe dans les versets 30 à 35, nous pouvons dire que ce qui dérange en premier lieu les pharisiens, c'est que Jésus ne respecte pas les traditions des anciens, qui ne sont que des préceptes humains. Voilà ce qui les dérange, parce que Jésus ne marche pas comme eux, ne met pas en pratique leurs traditions. Et Jésus dira dans Marc 7, 8, 9, « Vous abandonnez, vous rejetez le commandement de Dieu, et quoi ? Et vous tenez ou vous gardez la tradition des hommes. » C'était là leur problème. Ils rejetaient le commandement de Dieu, mais ils maintenaient leur commandement, les traditions humaines. Alors leur provocation commence par une question, comme souvent, qu'ils adressent aux disciples, mais finalement, si on le lit dans Marc 2, eh bien, ces interpellations sont adressées à Jésus. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pêcheurs? Eh bien, pour les pharisiens, cette chose était impensable. Selon leur tradition, justement, de manger avec des péagers et des pêcheurs, car ils considéraient comme impurs, comme des gens non fréquentables, comme des gens à éviter. Et encore moins à manger avec eux. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire dans ce pays, dans ce contexte? Bien, manger avec quelqu'un, ça voulait dire être un ami, voire même être d'accord avec sa façon de penser. Donc ça ne collait pas avec leur tradition. C'était impossible à rejoindre. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner. Il a toujours une réponse ou une question. Alors d'un côté, il répond en mettant deux catégories de personnes en opposition. D'un côté, il y a les malades et les pécheurs. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont en bonne santé et les justes. Donc malades et pécheurs, en bonne santé et justes. Alors par ces exemples, je pense que Jésus voulait dire aux pharisiens, tout particulièrement, qu'il n'était pas venu pour appeler ceux qui se considèrent comme justes, en appliquant toutes sortes de principes, toutes sortes de règles, toutes sortes de lois, et en pensant ainsi être sauvé. Mais il est venu pour les pécheurs, pour les malades, ceux qui sont d'accord de se reconnaître coupables devant Dieu et de demander pardon et d'accepter le pardon de Dieu. Voilà pour qui le Seigneur est venu. Et ça, il le rappelle ici aux pharisiens. Mais chose étonnante, les pharisiens tournent la page. Ils ne réagissent même pas à cette interpellation. Et ils continuent. Ils continuent leur parcours, leur provocation. Et ils posent une question concernant le jeûne. Là encore, ils sont offusqués. Parce que les disciples de Jésus ne jeûnent pas, comme c'était leur tradition, deux fois par semaine. Non, ils boivent et ils mangent. Ils ne jeûnent pas. Mais là encore, Jésus démolit leur conception du jeûne en leur démontrant que cette pratique est inutile s'il n'est qu'un rituel, qui ne sert à rien, qui est vide de sens, ou ayant comme but la gloire humaine. Et c'est vrai, ça on ressent chez les pharisiens. C'était pour leur gloire qu'ils jeûnaient. Nous autres, nous jeûnons. Et ça se voit. Nous prions, ça se voit. Mais vous, non, vous êtes à côté. Vous jeûnez pas. Vous priez pas. Vous mangez et vous buvez. Nous jeûnons. Philippe nous a parlé du jeûne il n'y a pas tellement longtemps. Et j'aimerais donner ici peut-être un autre éclairage du jeûne qui me paraît cadré dans le contexte de ce récit. C'est-à-dire que le vrai jeûne, celui auquel Dieu prend plaisir, est décrit dans Ésaïe 58, verset 6. Et j'en prends juste un exemple, ou une partie, c'est-à-dire le verset 7, où il est dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et amène à la maison les pauvres sans abri. » Mais ce n'est pas ce que Lévi vient de faire. Il a amené à la maison des pêcheurs, des collègues de travail, des gens qui avaient peut-être faim. Il les a amenés à la maison. Et on voit là un nouveau disciple qui vient d'être appelé il y a à peine une heure peut-être, j'en sais rien, jeûner comme le disait Ésaïe dans l'Ancienne Alliance. Et alors Jésus dira, mais pendant que l'époux est là, ils ne vont pas jeûner, ils jeûneront plus tard. Et finalement, c'est aussi ce que les apôtres, les disciples dans la Nouvelle Alliance, ont pratiqué. Dans Actes 4, 33-35, nous lisons « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » Nous retrouvons ici l'histoire de Lévi. C'est ce qu'il a fait. Alors ce deuxième tableau suscite aussi quelques questions. Ai-je accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur par la repentance et la foi? Il est question de repentance ici. Hein? Il l'a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. Est-ce que j'ai passé par là? Ou est-ce que je suis tout simplement satisfait de mes pratiques religieuses? Comme les pharisiens, ils étaient satisfaits de leurs pratiques. Ils pensaient que c'était ça qui était important. Une deuxième question, ma vie chrétienne est-elle un reflet de la grâce et de l'amour du Christ? Ça revient un petit peu à la question que j'ai posée après le deuxième tableau. Le troisième tableau, les paraboles. Le Seigneur utilise ici trois paraboles pour contrecarrer justement l'attitude des pharisiens, ou pour leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur quant à leur pratique de la vie spirituelle. En effet, la première parabole démontre qu'on ne peut pas utiliser la bonne nouvelle pour rapiécer des traditions humaines dans le but de faire bonne figure ou faire croire qu'on est disciple. Ça ne marche pas. On ne peut pas prendre l'évangile pour rapiécer des vieilles traditions, des vieux principes. Et le Seigneur dira un petit peu plus loin aux pharisiens, « Vous, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. » Voilà, ils ont voulu peut-être prendre l'Évangile pour rapiécer leur tradition. Mais le Seigneur a dit, « Non, non, ça ne marche pas. On ne fait pas comme ça. » Parce que ni l'un ni l'autre ne sera satisfait dans une certaine mesure. Alors le Seigneur n'est pas venu pour rapiécer la vieille nature avec ses pratiques, mais pour revêtir l'être humain de la nouvelle nature, selon Colossiens. Dieu nous revêt d'une nouvelle nature, frères et sœurs. Il ne rapiesse pas la vieille nature. La deuxième parabole ajoute une autre dimension. On est maintenant ici à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme. Là encore, il est illusoire d'adhérer à la bonne nouvelle tout en gardant les vieilles pratiques, les vieilles traditions, les vieilles habitudes. La bonne nouvelle s'accepte encore une fois par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et elle transforme l'esprit, l'âme, le corps, l'être entier. Donc aussi la partie visible, l'outre, où on met le vin dedans. Elle est aussi neuve, celle-là. Il y a du boulot encore, on est d'accord. Mais par rapport à l'œuvre de Christ, c'est clean. C'est clean. Dieu nous voit clean en Jésus-Christ. Et alors, que faut-il faire de la troisième parabole, qui semble être un petit peu en contradiction avec les deux autres ? Eh bien, l'interprétation n'est peut-être pas évidente, mais je rejoins d'autres qui pensent que Jésus fait ici allusion à l'attitude bornée, butée, des pharisiens, dans le sens qu'ils préfèrent en fait rester dans leur tradition plutôt que d'adhérer à la bonne nouvelle. Ils préfèrent garder le vieux vin qu'ils considèrent meilleur que le nouveau. Jésus leur enseigne autre chose. Mais eux, comme on l'a vu tout à l'heure, ils préfèrent tuer Jésus plutôt que d'écouter la bonne nouvelle, son message, et de se laisser transformer. Pourquoi ? Parce que les vieilles pratiques, les préceptes humains qui sont bien connus, c'est rassurant. Et aussi pour nous, comment réagissons-nous face au changement ? Ah, il y en a certains qui déstabilisent. Eh bien, les pharisiens étaient tellement ancrés dans leurs traditions humaines, dans leurs pratiques, dans leurs principes, dans leurs lois, dans leurs règlements, qu'ils ne voulaient pas se laisser bousculer. Et c'est pour ça qu'en grande partie, ils ont refusé l'Évangile, parce que ça les déstabilisait, parce qu'ils savaient très bien adhérer à l'Évangile, ça demandera un changement. Comme Lévi, il a subi un changement extraordinaire. Les pharisiens auront-ils compris ? Le texte ne le dit pas, il nous cache quand même un certain nombre de choses, le texte. Mais plaçons-nous devant ce qu'il nous dit et ce que nous comprenons. Et là aussi, l'une ou l'autre question, suis-je un évangélique ou d'une autre dénomination qui est satisfait de ses pratiques religieuses ? Ah, ça peut arriver. On va tous les dimanches au culte, on donne la dîme, mais pas plus, surtout pas. On suit quelques fêtes et on est satisfait. Mais Jésus, il aimerait plus. Il aimerait plus. L'Évangile me transforme-t-il encore ? Savez-vous ce que Jésus a prié lorsqu'il était encore sur terre pour les disciples ? Il a prié le Père, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Frères et sœurs, est-ce que la parole de Dieu nous sanctifie encore aujourd'hui ? Pas lors de notre conversion, mais aujourd'hui. Dieu veut poursuivre son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Et combien j'ai eu de la peine avec certaines choses dans ma vie. Il a fallu du temps, mais le Seigneur est patient. Mais il veut que la vérité, que la parole de Dieu nous transforme encore et toujours. Alors je conclue. Lévi a été appelé par Jésus et il a accepté de le suivre sans réserve. Sa vie a pris une toute autre tournure. Avant, il prenait et maintenant, il donne, dans son cas. Les pharisiens ont provoqué Jésus, mais celui-ci les a interpellés en leur révélant la vraie nature de leur cœur. Auront-ils accepté de se repentir? Certains peut-être, il faut le souhaiter, et probablement. Et moi, quelle est ma réponse par rapport à ce texte? Là, chacun est libre de répondre comme il veut, ce qu'il veut. Ça se passe entre Dieu et moi. Et moi, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais réagir par rapport à ce que je viens de vous dire? Je suis le premier concerné, frères et sœurs. Et j'ai même plus de responsabilités que vous. Parce que la parole de Dieu le dit, celui qui transmet la parole est plus responsable que celui qui l'écoute. Alors qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu quand elle m'interpelle? Oh, je suis parfois désobéissant. Mais heureusement, comme on l'a entendu tout à l'heure, on peut venir au pied de la croix. Dire, Seigneur, pardonne-moi, je me suis loupé, j'ai raté la cible. J'aurais peut-être pas voulu, mais ma foi, c'est comme ça. Et le Seigneur est là, viens, je t'accueille. Tu t'es loupé, je t'accueille. Pas grave, enfin, si, ça peut être grave, reconnaissons-le. Mais il est là pour nous accueillir, tel que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.